C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Caroline Castelli, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, et vous?
Tu me vous vois maintenant?
Ben, je sais pas.
Ah ben oui, c'est vrai. On sait pas parce qu'on s'est encore jamais retrouvés chacune d'un côté et de l'autre d'un micro.
Ben oui, c'est vrai. Ouais.
Ça, t'as les boules, non?
Un peu, mais ça va aller.
Ça va aller.
Oui.
Non mais attends, t'as fait des interviews sur, qu'est-ce que tu m'as dit? BFM, France
ouais,
Inter, France ouais, Culture.
Ouais, RTL.
RTL, tout ça. Tu vas quand même pas avoir peur de mon micro.
Ben, c'est à chaque fois une nouvelle expérience, hein. Donc je suis dubitative, j'attends la suite.
Bon, tu es conteuse.
Oui.
Voilà, tu es, on est, ce qu'on entend là un petit peu autour, c'est les branches d'arbres, les bambous, les feuilles, parce qu'on est pas loin du jardin.
Oui.
Et tu es en région nantaise parce qu'hier... on t'a entendu raconter sur la bête de Seine.
Ouais, c'était génial.
Tu racontais quoi?
Quoi annoncer l'homme araignée.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des histoires qui existent au Ghana, comme en Jamaïque. Et je me suis amusée à partir au Ghana, en récolter là-bas auprès des enfants, des anciens. Et ensuite faire le même chemin que ceux qui ont été déportés par l'esclavage et qui ont été déposés en Jamaïque, les Ashanti du Ghana, et qui ont garder en mémoire toutes ces histoires. Et du coup, j'ai collecté aussi des histoires de Kwaku Anansi, l'homme araignée, en Jamaïque. Mais j'en ai fait un spectacle.
C'est quoi ton lien avec cette culture-là du Ghana, de la Jamaïque? Comment ça se fait que tu t'es intéressée à ces histoires?
Bah, déjà, je viens du 93, donc c'est quand même multiculturel.
Oui.
Non, mais partout dans le monde, je dis que je viens du 93, même en anglais, je sais le dire. Nine Tree Department.
Yes.
Tu vois, donc.
Ça fait une réputation, je dirais.
Oui, voilà. Et à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas, je leur dis que c'est le Hota Hota Department of Paris. Enfin, à côté de Paris. Bon, je m'amuse bien avec cette histoire du 93, mais c'est vrai que le fait d'être née dans le 93, j'ai été comment dire, enrichie de toutes les cultures qu'il y a là-bas. Et j'ai eu une attirance pour tout ce qui était culture antillaise, culture africaine, mais culture asiatique aussi. Mais bon, pour parler de Kwaku Anansi, l'homme araignée, et de toute cette culture-là, il y a eu quand même Bob Marley. Mmh. J'aimais beaucoup, j'ai traduit toutes ses chansons et je trouvais que son discours était tellement chouette sur les humains, sur... l'amour des uns des autres et en même temps la justice, voilà, réclamer la justice, les droits égaux pour tous. Je trouvais qu'il avait, voilà, j'aimais ce qu'il disait. Et donc je me suis intéressée au Rasta. Et en m'intéressant au Rasta, je me suis rapprochée des Antilles, la Martinique et puis la Jamaïque. Et en m'intéressant aux Antilles, évidemment, je suis partie aussi à m'intéresser vers l'Afrique et en particulier le Ghana. Parce que on pourrait dire que le premier griot ghanéen que j'ai rencontré, c'est Ashanti Natijo, qui est un dub poète MC. Et il a été pendant 3 ans, quelque part, mon guide dans ce mouvement Rasta. Et chaque fois que j'avais des questions, il me donnait des réponses. Et quand il n'en avait pas, il allait les chercher pour me les ramener. Jusqu'au jour où il m'a dit « là ». Là, il faut que tu voyages, il faut que tu ailles chercher par toi-même, parce que là, je ne peux pas te dire plus que ce que je t'ai déjà partagé.
Tu l'avais rencontré comment?
Dans un sound system, j'étais en train de danser et je voyais cet homme particulier avec une aura, un charisme vraiment solaire, avec des gros bongos sur la tête. Je le sentais authentique. Voilà, je n'avais pas le sentiment que c'était quelqu'un qui portait un déguisement. Et il m'a fait des signes, donc je me suis rapprochée et on a commencé à discuter. Puis il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse le mouvement Rasta, bah t'as qu'à venir chez moi. Et j'y suis allée et là, ça a été 3 ans de discussions, d'échanges, de bouquins, faut voir tout ce qu'il m'a partagé. Je lui suis infiniment reconnaissante de tout ce qu'il a partagé et tout ce qu'il a cherché à me partager. C'est-à-dire que même quand il ne savait pas répondre, il allait demander à d'autres personnes qu'il connaissait. Et quand je revenais la fois d'après, il avait des arguments, il avait des documents, des trucs qu'il avait photocopiés pour que je puisse les étudier.
Super.
Ah oui, non, vraiment.
Est-ce qu'il existe dans la culture Rasta des sages ou des autorités religieuses, on pourrait dire, comme des imams ou comme des...
Le mouvement Rasta est très vaste. Donc, on peut avoir autant des prêtres orthodoxes, des prêtres animistes, des prêtres chrétiens, des prêtres musulmans, j'exagère, mais c'est un peu ça, un imam baïfal. Enfin, c'est très, très vaste. Donc, moi, j'aimerais... plus dire déjà que c'est pas une religion,
ouais,
mais que c'est un ensemble de règles de vie, de liviti, comme on dit chez les Rastas, et que chacun, en fin de compte, se choisit sa liviti. Alors, si un Rasta est plus attiré par tout ce qui est chrétien orthodoxe, parce que ça lui parle, c'est quelque chose qu'il connaissait déjà de par sa naissance, de par sa famille, eh bien... voilà, il va vers là. Si un Rasta est plus intéressé par tout ce qui est animiste, le côté relation avec la nature, harmonie avec la nature, les premières croyances, les premières entre guillemets religions comme le vaudou, des choses comme ça qui étaient un peu l'équivalent de nos druides, avec voilà, toutes ces choses-là, je pense que chaque Rasta, en fin de compte, a sa propre liviti. Après, ce qui rejoint tous les Rastas, c'est quand même qu'ils apprécient énormément Haïlé Sélassié, qui s'appelle Rastafari, d'où le nom Rasta quand même. C'est ce qui les rejoint tous. Et il y a
parmi tous. Tu peux juste redire pour les gens qui connaissent rien du tout à cette culture-là, c'est qui ?
Alors, Haïlé Sélassié, c'est un empereur d'Éthiopie qui est, de par sa descendance, descendant du roi Salomon et de la reine Makeda.
La fameuse reine de Saba.
De Saba, voilà, qu'on appelle aussi Baalkis, reine de Saba. Et c'est un homme qui est arrivé à un moment très important dans les années 1927, on commençait à parler de lui. Et en 1930, il est devenu empereur d'Éthiopie. Et il a dû combattre Mussolini, qui tentait de l'envahir, qui a réussi à l'envahir, mais qui ne l'a pas colonisé. C'est le seul pays d'Afrique, l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisé. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu un discours très très fort, où il dit que tant qu'il y aura un peuple qui se croira supérieur à un autre peuple, il y aura la guerre. Mmh. Et de par sa descendance, il a été déifié, ou vu comme prophète, ou vu comme guide spirituel. Tout dépend, comme je le disais, de la liviti du Rasta qui te parle d'Haïlé Sélassié.
Mais quand même, cet homme rassemble... oui. Tous les Rastas.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment œuvré pour qu'il y ait une justice et une morale internationale, des droits égaux pour tous. Ça rejoint vraiment tous les Rastas. Tous les Rastas sont d'accord sur le fait qu'il faut la justice, parce que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix, et sans paix, il ne peut pas y avoir d'amour. Donc, ce n'est pas vraiment le mouvement peace and love qu'on pourrait envisager quelquefois quand on parle des Rastas, pas du tout. C'est plutôt des guerriers, les Rastas.
Ah oui.
Ah oui, et parmi les guerriers, il y a effectivement ces vieux sages. L'ancien est très important, il s'appelle Elders. En général, on dit qu'il faut avoir fait 40 ans dans le mouvement et en étant activiste pour être considéré comme un elders, un ancien Rasta.
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Miss a war. let until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Mr. War, that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. This a war, that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now everywhere is war, war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, cher ami, nous partons en voyage à Nantes, à Sevran, mais aussi en Jamaïque, au Ghana et en Éthiopie. Avec la conteuse Caroline Castelli, il est question de contes, bien sûr, et des fils de mots, de musique et de récits qui tissent la culture rasta. Anne-Gaëlle Goduchaud est au micro.
Tu parles de toute cette histoire de Salomon et de la reine de Saba. Tu racontes ça ?
Oui. Oui, parce que je la trouve belle. Et j'ai choisi la version éthiopienne, parce qu'elle met en valeur l'eau. Mmh. Elle met en valeur voilà, le fait que sans eau, on mourrait. Donc je trouvais que c'était intéressant qu'une histoire vieille de 3000 ans, voire plus, puisse nous dire aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est qu'il faut protéger notre planète et protéger l'eau. Mmh. Voilà, donc j'aime beaucoup cette histoire de Salomon et la reine Makeda, que je n'appelle pas, moi, reine de Saba, parce que la version avec la reine de Saba et Balkis, c'est plus la version musulmane.
D'accord.
Ou para-musulmane, hein, pour eux, voilà. Mmh. Mais moi, je raconte plutôt la version du Kebranegast, qui est le livre à la gloire des rois éthiopiens, où on peut retrouver la Genèse, la version de Abel et Caïn, la version de Moïse, la version jusqu'à Salomon et Makeda, et le retour de l'Arche d'Alliance, ou plutôt le voyage de l'Arche d'Alliance, tu sais, la Indiana Jones, tu vois, le fameux...
La fameuse Arche.
La fameuse Arche, voilà.
Perdue.
Et donc, là, voilà, et cette Arche-là, selon le Kebranegast, a été ramenée en Éthiopie par Ménélik, qu'on appelle aussi David, ça dépend des versions, le fils de Salomon et de la reine Makeda, et qu'elle serait entreposée actuellement à Sainte-Marie-de-Sion, donc une église creusée dans la roche, à Sainte-Marie-de-Sion, et gardée par des patriarches.
En Éthiopie.
En Éthiopie, voilà.
Mmh. Ouais. Mmh. C'est vraiment des grands mystères autour de cette histoire-là.
Oui, et les Rastas y sont intéressés, parce que quand Haïlé Sélassié a entendu parler d'eux, et de ces hommes qui le déifiaient, ou qu'il voyait comme un prophète, ou un guide spirituel, eh bien, il est venu les voir en Jamaïque, et quand il les a vus, il a compris leur détresse, en fin de compte, d'avoir été déporté d'Afrique, Et il a voulu leur proposer une terre qu'il avait donnée à la diaspora africaine en général, pour tous les Noirs, en fin de compte, qui étaient venus défendre l'Éthiopie contre Mussolini, l'envahisseur. Mmh. Et il a dit au Rasta, mais vous aussi, vous avez votre place à Shashamané. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de Rasta qui sont, pas, ceux qui pouvaient, parce que voilà, en même temps, financièrement, c'était pas toujours évident, mais il y en avait qui avaient envie d'y aller, donc ils sont partis s'installer à Shashamané, il y en a qui sont encore hein, de l'époque, hein, à Shashamané, et là, eux, ils ont vraiment voulu suivre Haïlé Sélassié, ils sont donc devenus chrétiens orthodoxes, mais tout en mettant quand même Haïlé Sélassié comme le nouveau messie, tu vois, c'est merveilleux. Et de l'autre côté, en Jamaïque, sont restés aussi plein de Rasta qui ont continué aussi de le voir un peu comme le nouveau messie, le nouveau Christ, hein, le Christ en chair, comme ils disent, ou alors l'ont vu comme un prophète, ou l'ont vu comme un guide spirituel, ou comme un dieu. Et en Jamaïque, il y en a qui sont restés, pour pouvoir continuer, en fin de compte, de témoigner. Mmh. Et ils ont témoigné tellement haut et fort grâce, justement, à Bob Marley, Peter Tosh.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, la musique a joué un rôle considérable.
Ah, mais considérable. Et Bob Marley a fait connaître, et Peter Tosh, mais Bob Marley est quand même plus connu. Hein. Moi, partout où je suis allée dans le monde, tout le monde connaît Bob Marley. Mmh. Hein. Mmh. Et, mais Peter Tosh, c'est ceux qui vraiment se sont penchés vers le reggae, qui le connaissent. Mmh. Mais c'est vrai que Bob Marley, il est connu interne. Mais lui, c'est incroyable. Mmh. Et lui, il a porté ça parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle War, qui est très connue, où il reprend le discours d'Haïlé Sélassié, qu'il a fait, où il disait, tant qu'il y aura un peuple qui se croira supérieur à un autre peuple, il y aura la guerre. Il a repris tout ce discours. Et il en a fait la chanson « Wah ». Et ce qui fait qu'il a porté, en fin de compte, la parole d'Haïlé Sélassié partout dans le monde. Mmh. Et les gens, beaucoup de gens se sont ralliés. Il y a quand même des Rastas partout dans le monde. C'est quand même incroyable qu'une petite, une petite île comme la Jamaïque soit partie un mouvement aussi incroyable. Mmh. Comme on dit, il y avait des racines, c'était l'Afrique, comme pour, tout, comme pour tous. Et puis il y avait un tronc et il y a eu plein de branches, quoi.
Il y avait, si je ne me trompe pas, Caroline, une réputation des Ashanti comme un peuple qui ne se laissait pas faire aussi dès le départ, non ?
Dès le départ. On disait d'eux déjà qu'ils avaient le pouvoir de l'esprit, ouais. Le pouvoir de l'âme.
Comment s'appelait cette femme Ashanti qui avait mené un combat ?
Ya Santewa. Ah oui, non, mais elle n'a pas rigolé, hein, et elle n'a pas laissé, parce qu'il était dit que, par exemple, quand quelqu'un devenait maître du Ghana ou chef du Ghana, il devait avoir le trône en or de Osei Tutu. C'est une longue histoire, ça aussi, hein, parce que Kwame, c'est très long, ça. Mais enfin, pour résumer, ce trône d'or qui aurait été donné par le ciel, qui serait descendu du ciel, et qui aurait été donné à Nyoké, qui était un Okomfo, donc un prêtre animiste, qui avait des dreadlocks et qui a récupéré...
Au Ghana,
mmh. Qui a récupéré ce trône en or. Ce trône en or est le trône des rois Ashanti. Mmh. Et les rois Ashanti sont les rois de tous les peuples qu'il y a là-bas, des Hakan et tout ça. Et Anyoke a pris un poignard qu'il a planté. Alors tu vas voir, il l'a planté dans une pierre, que j'ai pu voir hein, au Ghana. Il l'a planté dans une pierre et ce poignard est impossible à enlever de la pierre.
Wow, c'est Merlin.
Voilà. Et il a mis ce poignard et il a dit, tant que ce poignard ne pourra pas être enlevé de la pierre, ce sera toujours le peuple Ashanti qui élira les rois. D'accord. Et même Mohamed Ali hein, est venu pour essayer, parce qu'il y a 15 jours dans l'année où tu as le droit d'essayer de retirer le poignard.
Et c'est toujours le cas, tu l'as vu donc,
oui, je l'ai vu. Et impossible de l'enlever. Et
quand on dit roi, c'est forcément homme ou ça peut être femme,
ça peut être femme. Les Ashanti sont géniaux pour ça, parce que ce soit prêtre ou roi, ou les femmes, elles peuvent être prêtresses, elles peuvent être... Mais attention, les prêtres Ashanti, c'est pas d'eux-mêmes qui se désignent, c'est pas non plus... quelqu'un qui les élit, qui dit « Ah oui, toi, t'es un prêtre. » Non, non, c'est les esprits. C'est les esprits qui viennent les posséder. Et quand un enfant est possédé par les esprits régulièrement, cet enfant va être un prêtre. Parce qu'il est en communication avec les esprits anciens. Et donc, on va aller le voir. Moi, je suis allée en voir un, hein, et c'était très impressionnant. Et on va aller le voir. Et si les esprits sont d'accord pour te parler, ils vont venir l'habiter. Et ça peut être plusieurs esprits, hein. qui viennent. Il y en a un qui vient, après il s'en va, il tombe en catatonie. D'un coup, il est paralysé, le prêtre, et puis hop, ça revient. Ouais. Et c'est...
Redis-moi alors, cette femme résistante, elle est déportée, donc.
Ouais. Donc, Ya Santewa, elle a refusé que ce trône soit donné aux Anglais.
Mmh, c'est ça.
C'était pas possible pour elle. Et donc, elle a caché le trône. Mmh. Voilà. Et elle a permis que les Anglais n'aient jamais ce trône en or. Et d'ailleurs, très rapidement, le Ghana aussi a été l'un des premiers pays à récupérer son indépendance.
Suck it in your backpack. This melody your girlfriend. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore. Cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And voting twice to sh** to. Don't make them spot you unless you carry guns a lot to. A beer tough. Come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn from them start it. We dip in file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a the post off if you're down to it. Rastafari stands alone.
Welcome to Jam Rap.
C'est pas pour dire, Sista Caro au micro.
Alors là, les gens qui nous entendent te voient pas.
Ouais.
Mais je peux vous la décrire. J'ai en face de moi une déesse avec plusieurs têtes. Je vous dirai pas. Je vous dirai pas où, comment. Mais sur la tête d'en haut, elle a des dreadlocks très longues, hein.
Ouais, enfin, elle a des plus longues.
Ouais, enfin, très longues quand même. Ça veut dire que toi, depuis des années, tu es complètement rentrée dans cette culture-là.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été comme un coup de foudre. J'ai vécu en Martinique aussi et j'ai rencontré des Rastas en Martinique et je trouvais que leur façon de vivre était si intéressante, d'être en accord avec la nature, de manger ce que la nature nous donne, de s'installer avec des maisons éphémères pour ne pas esquinter la nature. Ce qui fait que quand la maison éphémère tombait en ruine, en fin de compte, bah hop, tu reconstruis à côté, ça permet à la terre de se renouveler.
Juste avant d'ouvrir le micro, tout à l'heure, on était en train de parler de ton désir de trouver un terrain et d'y poser une tiny house,
voilà.
Tout en bois,
voilà, avec, un puits.
Avec un puits. On y est. Comment tu appelles cette volonté d'être au plus près de la nature? Tu parlais de ça hier.
Alors, ça, on peut dire que c'est... Alors, il y a un mot qui le représente, c'est Aïtal. Et Aïtal, ça veut dire natural. Parce que c'est parti du patois, en fin de compte, natural, Aïtal. Et dans ce natural et ce Aïtal sont contenus plusieurs préceptes, si je puis dire, ou règles de vie, comme de manger plutôt du végétal, hein, manger plutôt, voilà, de s'habiller avec des habits qu'on a fait soi-même, voire même qu'on a tissé soi-même, et de vivre en autarcie, en fin de compte, de vivre en autonomie, de ne pas avoir besoin de la société capitaliste babylonienne.
Pourquoi dans les chansons, dans le reggae, pourquoi Babylone?
Alors ça vient de la Bible, Babylone, la ville de la décadence, voilà, où le matériel est plus important que le spirituel. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on dans les chansons qui est banni, on dit que Babylone brûle. Mais alors attention, quand on dit que Babylone brûle, je ne voudrais pas inciter des gens à brûler Babylone, parce que ça a quand même été le cas quelquefois, ça a été mal compris.
Ouais.
C'est pas un feu... Alors bien sûr, il y a le feu de bois. Évidemment qu'on peut brûler des choses avec un feu de bois. Hein.
Mais il y a aussi le feu intérieur, le feu purificateur, le feu qui vient quand, par exemple, tu as fait une bêtise et puis qu'on a découvert que tu as fait une bêtise et tout d'un coup, tout à l'intérieur de toi, tu boues. Tu sais, ça te fait comme... Oh! Puis tu deviens tout rouge, tu fais « Oh, on m'a trouvé, voilà, bon. » Bah, c'est aussi ce feu-là. C'est aussi ce feu-là qui, pour moi, ça a été un chemin de purification, de lavage interne, en fin de compte. Parce que plus j'apprenais des choses et plus je lavais tout ce que justement cette fameuse Babylone avait mis en moi comme préjugés, clichés sur les autres cultures, sur plein de... voilà, sur le fait de penser que quand quelqu'un... Le jugement sur les autres, sans les connaître, enfin... Plein de choses comme ça. J'ai eu l'impression d'être dépoussiérée au fur et à mesure que j'avançais dans le mouvement Rasta, qu'on balayait, tu vois, de plus en plus mes restes d'enseignement colonialiste, que justement tout ça brûlait, tu vois, à l'intérieur. Mais littéralement, il y a eu des moments où je me suis retrouvée dans des situations où des vieux sages, tu vois, Rasta, m'ont mis le doigt sur des choses qui restaient encore en moi de cette société capitaliste et où tout d'un coup tu sens que tu brûles à l'intérieur parce que ça remet en cause toutes tes fondations pour en construire des plus solides en même temps. Ouais, ça a été, pour moi en tout cas, ça a été vraiment une quête et qui n'est pas finie parce que ça ne s'arrête jamais, je pense, une quête spirituelle. Plus tu avances, plus tu trouves d'autres choses qui te questionnent encore et ainsi de suite. Hein.
Alors tu racontes des contes d'Éthiopie, des contes du Ghana, tu racontes le voyage de l'Arche. Salomon et Makeda. Tu racontes des histoires de partout.
Oui.
C'est quoi ton comment tu pourrais parler de ton chemin de conteuse? T'as commencé à raconter, c'est ton premier métier ou t'as fait autre chose avant?
Non, j'ai fait d'autres choses. À vrai dire, j'avais une arrière-grand-mère, nonna italienne, qui me racontait des histoires quand j'étais petite. Ensuite, ma grand-mère a continué de me les raconter, mon père aussi, ma mère, et j'ai... Les histoires, voilà, les contes, pour moi, ont toujours été importants. Et mon père et ma mère avaient énormément de livres de contes à la maison, des contes du Japon, des contes de France populaire, des contes de...
Oui, tu m'as dit que tu avais lu Seignol.
Oui, voilà.
Le Seignol en long, en large et en travers, et que tu connaissais.
Oui, tout, oui. Tout... Et tous les Grounds, tu sais, les fameux Grounds, où tu as tous les pays du monde. Et donc, moi, j'ai lu tout ça toute petite et j'étais fascinée par les contes. Et arrivé à l'âge où il fallait que je travaille, j'ai fait plein de petits boulots. Si je devais faire la liste, j'en finirais pas parce que bon. Mais j'ai fait plein de petits boulots et je suis arrivée, par un hasard ou par la guidance, comme on dit chez les Rastas, à faire animatrice. Et quand j'ai fait animatrice, voilà que je me suis retrouvée à devoir passer mon BAFA. Et que qui étaient donc à cette époque les formateurs? Sonia Koskas.
Ah
oui, oui.
Alors Sonia Koskas, chers auditeurs, vous ne pouvez pas encore l'entendre dans toute la série d'émissions. C'est pas pour dire, mais ça va pas tarder. C'est une conteuse, alors j'allais dire parisienne, oui, mais qui raconte beaucoup la culture juive.
Juive tunisienne, tout. Elle raconte beaucoup de choses. Ouais. Elle est incroyable. Moi, je l'adore et elle a fait partie justement des premières personnes qui m'ont montré le chemin vers le conte avec Thierry Lobello, non JP Lobello et Thierry Le Fouillé et Sabine Richard. Enfin voilà, c'était toute une équipe qui était absolument géniaux. Et puis du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils m'ont dit, est-ce que ça dirait d'être formatrice? Bon, moi, j'ai dit pourquoi pas. Donc, ils m'ont fait venir pendant le festival des conteurs de Blois, où là, on avait un passe-partout pour aller voir tous les conteurs. Donc, tu imagines la folie pour moi d'aller voir tous les conteurs. Parce que là, il y avait vraiment des conteurs divers et variés. Il y avait Gabriel Kinsa, il y avait Bernadette Bidaud, il y avait Kamel Guénoun, il y avait Michel Bouet. Il y avait, faut voir tous ceux que j'ai vus. Mais là, j'en oublie, pardon, excusez-moi.
C'est Jean-Claude Botton qui était à un moment à la tête de ce festival, non?
Oui, c'était incroyable, tous les conteurs que j'ai pu voir. Et en plus, ils m'ont permis au CMEA
d'emmener ma fille.
Fiona MacLeod, évidemment, qui était là aussi. Et ils m'ont permis en plus d'emmener ma fille, Jasmine, à l'époque, et ils ont pris une animatrice pour s'en occuper. Donc moi, j'étais libre, je faisais ce que je voulais. Et c'est cette fameuse fois où on m'a demandé d'enregistrer un conte avec un micro et que le micro est devenu immense dans ma tête et j'arrivais plus à parler. C'est cette fois-là. C'était juste après avoir écouté Fiona MacLeod et Philippe Campiche. Et ah oh non, mais bon, je te dis, pardon, je vais en oublier. Non, mais c'était fabuleux. Et alors après, quand je suis rentrée, moi j'ai dit à Sonia et à Thierry Le Fouillet, je veux devenir conteuse. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais c'est pas comme ça. Il te faut du temps. Et moi j'ai ça pris un an. Parce que comme j'étais animatrice, eh bien je racontais tout le temps. Je racontais aux enfants tout le temps, à la cantine, dans les sorties, dans les parcs, en bas des cités. Je passais pas un jour presque sans raconter des histoires.
Mais oui, c'est ça.
Et ça m'a forcé
à raconter en racontant beaucoup.
Et après, j'ai rencontré Ralph Nataf lors d'un stage. Ça a été magnifique parce qu'il m'a permis de me rassurer sur le conte, la conteuse que je pouvais être. Et puis après, ça a été compter partout. Et je suis quand même une hyperactive de la création. Je ne peux pas rester sur un seul spectacle. J'en ai fait à peu près 200 à 250. Mais c'est pas quelque chose que je peux m'empêcher de faire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, j'ai trouvé ce mot-là, hyperactive, parce que des fois, on me disait, mais comment t'as pu créer autant de spectacles avec vraiment de la rigueur? Ben oui, parce que c'est comme ça. Mmh. On est tous différents. Moi, j'ai ce côté, j'avale. Mmh. Mon père, il m'avait toujours dit, même si tu sais, dis pas que tu sais. Et transforme-toi en éponge sèche. Et absorbe toute l'eau qu'on va pouvoir te donner. Et je suis restée sur cette façon de voir les choses. Et de ce fait, eh bien, ça a fait plein de...
Tout le temps.
Puis je viens du 93, donc t'imagines. Je veux dire, j'étais avec mes amis du Maghreb, j'étais avec mes amis d'Afrique, avec mes amis d'Asie, d'Arménie. Mais tu te rends même pas compte le nombre de personnes qui m'ont demandé de raconter leur histoire. Parce que, par exemple, des fois, je racontais dans une bibliothèque du 93, puis t'as une dame polonaise qui est venue. Et elle me dit, oui, j'aime bien comment vous racontez, je voudrais que vous racontiez des histoires de mon pays. Je dis, mais la Pologne, pardon, excusez-moi, moi je connais pas la Pologne, je sais pas. Et la dame, elle me disait, vous inquiétez pas, je vais vous trouver des histoires. Et elle est partie écrire à un conteur polonais qui était encore en Pologne, qui lui a envoyé des textes de Pologne, qu'elle m'a traduit en français et qu'elle m'a donné en me disant, voilà, c'est cela que vous allez raconter. Et j'ai pris les contes, ils étaient merveilleux sur la princesse Wanda et j'en ai même fait un dub. J'ai raconté l'histoire de la princesse Wanda
en chantant
en anglais pour un de mes potes dubbers polonais. Et quand il l'a reçu, il m'a envoyé un message, il m'a dit mais comment tu connais cette histoire de la princesse Wanda? Et j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages. Oh, mais ça me rappelle ma grand-mère quand elle me racontait. Et c'est, ben, pourquoi je, voilà. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je fais ce métier. Ben, c'est pour continuer de faire vivre la parole des anciens. La transmettre.
Tu es quelqu'un de transmission, tu disais.
Ah oui.
Ouais. D'oralité, fondamentalement.
Ah, fondamentalement. Ouais. On m'a demandé d'écrire plein de livres. Combien de fois on m'a dit, il faudrait que tu écrives un livre sur ci, un livre sur ça. Mais à chaque fois, je dis, mais oui, mais dans le livre, il n'y aura pas cette émotion de la transmission humaine. Moi, je sais que quand on me raconte une histoire et qu'après je la raconte, je la trouve beaucoup plus légitime, beaucoup plus intéressante, parce que la personne a transmise toutes les émotions de ceux qui lui ont raconté, de ceux qui ont raconté avant, et ainsi de suite. Alors que si je m'enregistre, bah ça y est, le truc, il est là, il est arrêté, il est fini. Et moi, ça bouge. Parce que, par exemple, le voyage de l'Arche, ça fait 25 ans que je fais des recherches dessus. Eh bien, ce que je te racontais il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte aujourd'hui. Alors, si j'avais fait un disque à ce moment-là...
Je serais obligée d'en refaire un deuxième.
Et voilà. Et en plus, en 10 ans, j'ai raconté un peu des bêtises. Donc, pour éviter qu'on me dise que j'ai raconté des bêtises, je propose aux gens de venir... Puis, c'est pas pareil. Tu vois, je raconterai... Moi, je ne fais pas du par cœur. Donc, je ne raconterai jamais la même histoire de la même manière. Ce qui fait que je préfère l'oralité tant que je peux, tant que j'ai du souffle. Et je me suis dit, le jour où j'ai plus de souffle, en espérant que j'en ai encore assez quand même pour m'asseoir devant un ordinateur ou pouvoir enregistrer, et à ce moment-là faire des bouquins, là ce sera le moment. Mais en attendant, je préfère être sur scène et...
Turk. Ein Plätzchen für mein Schätzchen. Cannabis in Holland, Mamani auf der Venus.
Le barbier est plutôt content, il va voir le roi avec la belle couronne, le roi est flatté. Il essaye, ça ne rentre pas, donc il dit au barbier, bah coupe-moi les cheveux. Le barbier soulève les cheveux du roi, et là il voit ses oreilles. Des oreilles d'âne, toutes poilues, toutes grandes, pointues. Il dit, roi, vous avez des oreilles d'âne. Oh, des oreilles d'âne? Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais bien que mes oreilles n'étaient plus comme avant. Il prend un miroir, il se regarde, et là... Oh, il dit, barbier, si jamais tu répètes à qui que ce soit que j'ai des oreilles d'âne, je te fais couper la tête. Le barbier a dit, promis, je garderai le secret. Promis, je te donne ma parole. Il lui a huilé les cheveux et le lendemain, avec l'huile, la couronne a réussi à passer. Mais ses ennemis, ils n'ont pas pu le prendre sur le fait comme quoi il avait des oreilles différentes. Le temps a passé. Et le barbier, il n'en pouvait plus du secret. Tu sais, le problème d'un secret, c'est ça, quoi. C'est qu'un secret, c'est toujours un secret que tu vas répéter à quelqu'un en lui disant que c'est un secret. C'est ça. Et le problème, c'est que dès que tu as dit le premier, le secret, ah, son chemin peut aller très loin. Alors du coup, il n'en parlait à personne. Mais le secret l'étouffait. Le secret lui faisait mal. C'était lourd à porter. Il avait envie de crier partout, le roi des oreilles d'âne, le roi des oreilles d'âne, pour se soulager, mais il ne pouvait pas. Il pensait à sa femme, ses enfants, sa tête. Il voulait la garder. Et un jour, il est tombé malade. Le secret le rongeait à l'intérieur. Il fallait qu'il sorte. Il est allé dans la forêt. Il a creusé un trou dans la terre. Long, profond. Et puis il a crié. Le roi des oreilles d'âne ! Dans le trou. Ensuite, il a pris une graine d'un arbre et il l'a mis dans le trou. Il a remis la terre par-dessus. Il a tassé, tassé, tassé. Il entendait au loin. Des oreilles d'âne.
Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, on continue à se rassembler, à s'asseoir tranquillement pour écouter un conteur, une conteuse? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir encore envie de raconter des histoires qui sont des histoires anciennes? Tu disais, ça a 3000 ans, ça a peut-être 5000, on ne sait pas. Pourquoi on fait ça?
Parce que c'est humain.
Ouais.
On est dans l'humanité. C'est humain.
Mais tu veux dire que ça apporte quelque chose à l'humain?
Ça
nourrit l'humain?
Ça nourrit l'humain. Et toutes ces histoires qui sont anciennes ne sont en fin de compte que des histoires d'humains. Et nous sommes tous des humains et on se retrouve dedans. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas quelque chose qui va se perdre. Parce que des gens, des fois, sont un petit peu dubitatifs. Ouais, du coup, c'est pour les enfants. Tu vois, bon, ils sont un peu. Ouais, ouais. Je leur dis, venez voir. Venez écouter. Et la plupart du temps, enfin, j'ai jamais eu personne, que ce soit adulte, enfant, quoi ou qu'est-ce, qui, après avoir raconté avoir écouté des histoires, n'ait pas envie après de les raconter, pour rester sur le mot raconter. Mais c'est vrai, ils ont aimé, alors qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils aimeraient. Et pourtant, ils ont aimé, je raconte, dans les prisons. Je veux dire, quand même, des repris de justice. Et ben, ils me racontent des histoires, et quand ils créent des histoires, ils aiment bien qu'elles se terminent bien. Tu vois, oui, la bergère épouse le bandit, là, par exemple. C'est humain, on est dans l'humanité et on a besoin de ça. Les écrans, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Oui, là, on touche à l'humain, on touche au cœur, on touche à l'âme et on remue des choses qu'on soupçonne même pas chez les autres. Et c'est très bien, parce que comme ça, on ne fait pas de la psychologie de cuisine. Hein. On leur balance une histoire qui est là depuis la nuit des temps, qui a déjà fait ses preuves puisqu'elle est encore là. Et elle fera son travail pour celui qui en aura besoin.
Souvent, les gens disent, non mais comment, pourquoi? C'est pas des choses que tu écris, c'est pas des trucs modernes. Comment ça se fait que tu racontes des vieilles histoires?
Par exemple, mon arrière-grand-mère, elle racontait une histoire de l'homme qui dit au créateur qu'il faut qu'il change, qu'il trouve que des petites noix sur un gros noyer, c'est pas logique, et que des gros potirons sur un petit fil, c'est pas logique, il faudrait que les gros potirons soient sur gros noyer.
Je pensais que c'était la Nasreddin, ça.
Ah non.
Ah,
ah bah, ou alors mon arrière-grand-mère a entendu une histoire de Nasreddin. Ça, c'est possible. Mais, les petites noix, il faudrait les attacher au fil. Et le créateur dit, ah bah oui, t'as raison. Donc, d'un geste de la main, c'est le créateur, après tout. Hein. Pof, pof, il fait monter les potirons, donc maintenant sur le potironnier, et les petites noix sur le fil. Je raconte ça quand même depuis 30 ans. Hein. Quand même, depuis 30 ans. Hein. Et voilà. Et l'homme veut aller se reposer. Et surtout, il est super fier de lui, parce que quand même, le créateur de toute chose lui a obéi. Hein. Donc, il va s'allonger sous le potironnier, comme habituellement, pour faire la sieste. Et évidemment, le vent se lève, devient de plus en plus fort, jusqu'au point qu'un des potirons se détache et lui tombe sur le coin de la figure. Ça le réveille, et là, autour de lui, une pluie de potirons. Donc, il sort d'en dessous de l'arbre, et là, il entend une voix qui vient d'en haut et qui lui dit « Alors, homme ?» Et l'homme lui dit « Bah, vas-y, remets les petites noix sur le noyer que je puisse faire ma sieste, et les gros potirons sur le sol. » Et cette histoire, qui est vieille, hein, parce que c'était mon arrière-grand-mère qui me la racontait quand même, hein, mais je la trouve hyper d'actualité. Toutes les histoires que j'ai racontées, j'ai toujours eu, à la fin d'un spectacle, une ou deux personnes qui est venue me voir en me disant « Est-ce que vous savez qui, là ?» Vous savez, ça correspond à quelque chose que je vis. Et là, vous m'avez donné... Et moi, je disais « Non, 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 c'est pas moi. C'est l'histoire. » Parce que justement, c'est ça que je trouve fabuleux. C'est que c'est pas moi. C'est l'histoire. Et tu sais, c'est comme quand un enfant est avec sa mère, et que la mère, elle vient dire « Oh, tu te rappelles, c'est la conteuse !» Et puis, l'enfant, il me regarde, c'est genre « C'est qui celle-là » Et elle lui dit « Mais si, l'histoire du monstre, là, avec ses grosses fesses !» Et là, le gamin, il fait « Ah oui !» Là, j'ai fait mon travail. Il m'a zappé, mais il se rappelle de l'histoire. Voilà, si ça pouvait résumer ce que pour moi est un conteur, ou plutôt une conteuse, .se, tu vois, S, s'il y en a plusieurs. Mais si je devais, voilà, donner une définition pour moi de ce qu'est un conteur, c'est ça, c'est ça. Enfin, une conteuse, c'est ça. C'est que l'histoire perdure après toi. Toi, t'es juste là pour la mettre en valeur, parce que tu aimes ce qu'elle porte, et c'est très contemporain. Tout est contemporain. Moi, j'ai eu un papa une fois qui est venu à la fin d'un spectacle, qui m'a dit, en pleurant, il me dit « Oh, ce que vous avez dit là, de l'abeille qui aide sa mère, moi ma mère est loin, je ne peux pas l'aider. » Et ça lui a fait du bien de me le dire. Et moi, je lui dis « Non, mais vous inquiétez pas, votre maman, elle le sait que vous êtes obligée de rester ici pour vous occuper de votre famille. » Tu vois, ça permet des choses, c'est très contemporain, ça.
Et ça, évidemment, tu ne peux pas le faire autrement qu'en présence, évidemment.
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 Voilà, évidemment.
No matter what Babylon teaches. without doubt,
without doubt.
No matter what Babylon says, c'est Sista Carol, alias la conteuse Caroline Castelli au micro, interviewée par Angel Goduchot.
Donc tu dis ça fait 25 ans, plus ou moins, que je travaille sur le Quebranegast. Ça veut dire quoi en fait que tu travailles dessus? Ça veut dire que tu remets le nez dans les textes, ou ça veut dire que tu prends le temps de te laisser traverser? Est-ce que ça te change toi-même? Ça veut dire quoi? Travailler un conte dans ce sens-là,
c'est le revoir dans ma tête les images, retravailler les images indéfiniment. Et quand j'ai un doute, revenir sur le livre, relire le livre, parce que des fois il y a des choses qui t'échappent, surtout sur une épopée aussi grande. Il peut y avoir des choses qui t'échappent, comme par exemple un truc hyper important, l'Arche d'Alliance s'élève seule de son socle. Et moi, pendant à peu près 2 ans, j'ai raconté ça en disant qu'ils ont porté l'Arche d'Alliance. Parce que pourquoi, comment, je n'avais pas. Voilà. Et le fait de travailler ces contes, c'est aussi de les raconter. Et surtout à des personnes qui vont les connaître, mais qui les ont lus peut-être autrement que toi. En fin de compte, c'est les gens. C'est à force de raconter les histoires, les gens vont m'aider, les personnes qui sont là vont m'aider à être de plus en plus juste.
Tu disais que tu avais eu au début un souci de légitimité, que toi-même tu ne te sentais pas complètement légitime, et puis même que une partie des Rastas en France, par exemple, disaient bah, « tu ne peux pas raconter ça ». Comment tu l'as trouvé alors cette assise qui te permet de raconter ça maintenant tranquillement?
Déjà, j'ai vieilli. Donc, je pense qu'en vieillissant, j'ai pris un peu plus d'assurance, de sagesse par rapport à ces réflexions que peuvent avoir des personnes qui vont te dire que tu n'as pas le droit de faire quelque chose, un peu comme ces chiens. Pardon, c'est pas du tout que je les prends comme des chiens, hein, mais c'est l'image que je veux utiliser. C'est un peu comme tu veux passer une porte et puis il y a des chiens qui aboient, tu vois? Et à partir du moment où tu ouvres cette porte, ben, ils te laissent passer. C'est tant que la porte est fermée. Tu sais, les chiens, ils sont comme ça. Hein. Mais ce n'est pas du tout pour dire que ces gens-là étaient des chiens. Je veux être bien clair là-dessus. C'est vraiment pour l'image. Et en fin de compte, ben, toutes ces personnes-là qui sont en train de te critiquer, en général, hein, sans parler des Rastas seulement, mais en général, bien souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la force d'ouvrir cette porte. Et comme j'ai été beaucoup critiquée, j'ai cherché partout et je me suis dit, en fin de compte, l'ultime, c'est d'aller en Jamaïque et d'aller rencontrer les anciens et de voir avec eux si ce que je dis, c'est des bêtises ou pas. Hein. Donc, je suis partie au Ghana d'abord parce que je voulais absolument faire ce chemin des déportés, de partir du Ghana et ensuite aller en Jamaïque. Je trouvais spirituellement que c'était plus... Enfin, je sais pas. Je trouvais que c'était quelque chose qui allait plus m'aider. Et quand je suis arrivée en Jamaïque, j'ai eu la chance d'être en contact avec des anciens déjà par téléphone. Donc, j'ai vu des anciens.
Il y a des conteurs en Jamaïque?
Alors, oui, ils sont tous conteurs. C'est un peu comme au Ghana. Hein. Ça fait partie de la culture. Au Ghana, par exemple, un enfant qui n'est pas capable de raconter une histoire de Kwaku Anansé, c'est la honte de la famille. Et ça, c'est hyper, hyper éducateur parce que ça les oblige à avoir une certaine assurance pour parler devant les autres.
Ouais,
genre entretien d'embauche, tout ça, tu vois.
Oui, oui, il faut habitué utiliser à raconter ta parole. Quoi.
Voilà, voilà. Et en Jamaïque, il y en a une qui a vraiment... j'ai pas pu la voir parce qu'elle est décédée avant que j'aille en Jamaïque, c'est Miss Lou. C'est la seule, en fin de compte, qui est vraiment... Qui a porté le conte jusqu'aux radios, qui a fait des CD, qui était vraiment une vedette hein, de l'île et qui était une femme incroyable... Waouh, quoi, tu vois, vraiment, vraiment, elle, c'est un exemple hein, de conteuse pour moi. Mais sinon, il y a beaucoup de gens, enfin, ils racontent tous des histoires.
Moi, j'ai collé... Donc, toi, tu as débarqué en disant, ben voilà, je raconte ça, dites-moi si je dis des bêtises.
En fin de compte, oui, je suis arrivée, et bon, pour les Kwaku Anansé, ça, c'était plus avec les enfants. Parce que les enfants les connaissaient tous, et puis surtout les livres d'école. Ouais. Parce que dans tous les livres d'école, tu as des histoires de Kwaku Anansé.
Ouais.
Donc, voilà, je me suis... Voilà.
On est dans des histoires facétieuses.
Voilà. Oui, et puis de sagesse, ouais. Voilà. Et le mouvement Rasta, en fin de compte, je suis allée voir les Rastas, mais pas les Rastas des villes, Non pas que j'ai un problème avec
les rastas. Il y a des rastas des villes et des rastas des champs.
Oui, mais bon, je les fais rigoler quand je dis ça. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que les rastas des villes, ça va être plus ceux qui se sont basés sur la musique, le reggae, qui sont super. Hein. C'est des gens, vraiment, moi j'ai passé des moments avec les rastas en ville aussi, à Kingston. Waouh, quoi, tu vois, vraiment, des échanges et tout.
Dub, là aussi.
Oui, il y avait tout ça, tu vois, c'était. Ouais, voilà, moi je chante, donc voilà, il y avait tout ça, mais c'est les montagnes. C'est aller dans les montagnes, rencontrer les rastas des montagnes, des forêts, voilà, qui sont pas du tout dans la musique, mais par contre qui vont jouer ce rythme de percussion ancestral, le Nyabingi, qui vient du Kumina, du Bourou, c'est un peu des rythmes, entre guillemets, toujours vaudou, parce qu'on connaît que le vaudou, mais chaque peuple, en fin de compte, avait son propre vaudou, hein, voilà. Et il y avait les anciens rastas, il y avait les elders. Donc j'ai eu la chance de connaître une jeune femme qui s'appelle Crystal, qui est la femme d'un des descendants d'une famille rasta des premiers temps, qui est sur Portland, et qui est aussi la chance que dans cette famille-là, il y ait la descendante de ces rastas qui en a pour certains été même avait fait le voyage jusqu'en Éthiopie. Qui s'appelle Mama Faya et qui est la seule femme qui a été autorisée, si je puis dire, par la communauté, à fêter la bataille d'Adwa, qui est une bataille où une impératrice Taïtou a repoussé le colon. Bon, voilà. Je résume parce que
elle a fait comme ça, comment en musique.
Oui, c'est-à-dire que il y a des dates précises qui se font là-bas. Et t'as beaucoup de tabernacles. Alors pas le tabernacle des Québécois, mais il y a beaucoup de tabernacles, des constructions éphémères normalement, sans béton logiquement. Ça change un peu, mais tu sais, bon, c'est comme tout, ça évolue. Mais en général, ça va être éphémère justement pour protéger la nature. Et elle a eu le droit d'organiser donc cette cérémonie qui est vers le 3 mars. Et donc, les anciens sont venus à cet endroit-là. Et mon amie Crystal et Pelé, Raspelé, qui est donc son mari, et Mama Faya m'ont dit « Oui, tu peux raconter devant les anciens. Wow. » tout ça. Donc, je me suis retrouvée. J'ai des preuves.
J'imagine que tu avais peur.
Ah mais là j'étais comme on dit, comme ils disent les jeunes, en PLS. position latérale de la sécurité, là, c'était là. Ouais, non mais là j'étais en panique et tout. Puis tu sais, bon, c'est les anciens rastas avec des petits yeux qui brillent et tout ce que tu veux. Hein. Bon, puis un charisme incroyable et... Waouh, quoi. Puis moi, les anciens, je suis toujours très impressionnée. Hein. J'aime beaucoup les personnes âgées. Bah, oui. Je suis, voilà, bon, j'aime les anciens, les anciennes, je les trouve... tellement mignon et tellement attachant et tellement touchant. Et là, en plus, c'était quand même des anciens qui ont vécu des choses très dures. Ils ont été poursuivis par la police. On avait le droit de les tuer simplement parce qu'ils portaient des dreadlocks dans les années 46. Enfin, c'est pas... Tu vois, c'est quand même des personnages qui ont gardé leurs dreadlocks sur leur tête, hein, malgré les menaces de mort, tu vois.
C'était quoi la signification des dreadlocks?
Oula!
C'est trop long?
Non. Mais si tu veux qu'on continue, je sais pas quoi. Non, je continue celle-là et après on peut parler des dreadlocks ou je fais les dreadlocks.
Non, vas-y, continue sur l'histoire.
Voilà. Et alors, me voilà donc sur scène avec Raspelé et Rasalek, mon kingman, donc c'est mon roi. Mon homme roi, tu vois, donc ça veut dire que c'était mon petit copain, quoi, pour résumer la situation. Et donc, voilà, avec Raspelé et puis Rasalek, qui sont en train de jouer des tambours pour m'accompagner. Ça aussi, c'était inespéré pour moi, parce que c'était un soutien, hein. Et me voilà en train de raconter toutes ces histoires, la voix qui tremblote, et je chante, et je fais tout ce que j'ai à faire en anglais, tu vois. Et à la fin du moment de conte, je descends les petites marches de la scène. Je m'approche des anciens et ils viennent me prendre dans les bras, ils m'embrassent comme ça et ils me disent oh, continue, vas-y, continue, porte notre parole. Mais c'était mes pas. Là, tu vois, 25 ans de critiques se sont effacés. Là, maintenant, je peux te dire qu'à ce moment-là, je me suis sentie légitime. Voilà, c'est à ce moment-là, vraiment, clairement.
Adoubé par les vieux.
Voilà, mais qui pouvait m'adouber si ce n'était eux?
Voilà. Alors les dreads.
Alors les dreadlocks. Alors, les dreadlocks, ça veut dire nœud terrifiant. C'est des nœuds. Lock, ça veut dire nœud, et dread, ça veut dire terrifiant.
Waouh!
Oui.
Nœud terrifiant.
Oui. C'était une révolte de la part des Rastas de laisser pousser leurs cheveux. Donc, c'était impressionnant. Et c'est vrai, moi, je suis allée dans la forêt, il y a des frères, parce que je les appelle mes frères et mes sœurs, les Breda les Sistas, les Boledin les Sistrin.
Alors, t'es une Sista?
Alors, oui, je suis une Sista. Parce que, alors attention, bon.
Oui, je t'emmène là-dedans.
Ok. Alors, je suis une Sista parce que, logiquement, quand tu es une Sista, déjà, c'est un mot du patois des Rastas. Hein. C'est pas jamaïcain. C'est les Rastas qui ont refait tout un vocabulaire pour justement combattre le côté anglais. Ils ont voulu transformer plein de choses, comme par exemple, meditation se dit I-ditation. Tu vois, understand, qui veut dire comprendre, se dit overstand, parce que under, c'est en dessous, donc ça voudrait dire que tu comprends en dessous. Overstand, c'est que tu comprends bien parce que tu comprends au-dessus. Voilà, bon, c'est des petits détails, histoire de... Voilà, I, le mot I est toujours là, parce qu'il y a I, an I, c'est le petit moi qui est mortel et qui va mourir, donc mon enveloppe corporelle, et le grand I, qui est l'esprit qui nous réunit tous. Voilà. Donc, les Sistas ont quand même un rôle à jouer dans la communauté Rasta, et donc ce mot n'est pas galvaudé. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, qu'il a été très galvaudé. Bon, c'est un peu comme beaucoup de choses qui sont galvaudées. Hein.
Est-ce qu'une Sista, c'est une jeune fille? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une maman? Ou c'est toutes les femmes?
C'est toutes les femmes.
D'accord.
Tu peux être une Sista ou une Dota dans le milieu Rasta, au lieu de daughter. Tu peux être une Dota. Mais alors, quand tu es une Dota, c'est que tu te représentes comme fille de Rastafari, de Haïlé Sélassié. Mmh. Donc, on pourrait comparer ça aux bonnes sœurs. Mmh. Tu vois, un peu les Dota, tu vois. Mais Sista, ça peut être aussi ça. Mais ça peut être aussi quand même des guerrières, des femmes indépendantes. Et les Sistas, surtout, elles ont 5 préceptes qu'elles doivent... suivre, toujours entre guillemets, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris et c'est ce que je fais. Elles doivent nourrir celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, loger celui qui n'a pas d'habitation, habiller celui qui est nu et aider le nourrisson et l'ancien. Ça, si tu fais tout ça, tu es une Sista. Parce que tu es active dans le mouvement. Et pour obtenir cette qualification, si je puis dire, j'ai œuvré. J'ai beaucoup œuvré. C'est pas comme ça que je me suis fait appeler Sista. Il a fallu du temps. C'est pas moi qui ai décidé de m'appeler Sista. Hein. C'est les Rastas qui m'ont appelé Sista. Parce que pour eux, je faisais ce qu'il y avait à faire pour être une Sista. Voilà.
Alors, des nœuds terrifiants.
Oui. Alors, nœuds terrifiants, donc comme je te disais, c'est les Anglais qui ont donné ce nom, dreadlocks. Mais ça existait déjà depuis longtemps. Parce que là, on va parler du côté Bible. Hein. Il y a Samson et Dalila. Donc, Samson, si tu lis la version anglaise, il n'y a pas marqué 7 tresses, comme dans la version française. Il y a marqué 7 locks. Mm-hmm. Donc, 7 nœuds. Donc, il avait bien des gros bongos. Hein, et on lui a coupé. Il a perdu sa force parce que le cheveu, selon les Rastas, possède une force comme tout le reste. C'est quelque chose qu'on a qui pousse, donc pourquoi le couper? Le couper, ça veut dire ne plus se mettre en relation avec la nature, avec l'harmonie. Donc laissons-les pousser et naturellement sans les coiffer, ça devient des locks. N'importe qui sur la terre qui laisse pousser ses cheveux sans les coiffer, sans passer ses mains pour les démêler, il aura... ou un gros bongo, ou des natty dread, ou des locks, enfin bon, voilà. Après, maintenant, il y en a qui en ont fait des coiffures aussi, c'est très joli d'ailleurs. Voilà, mais normalement, ça doit être un petit peu la pagaille quand même. Hein. C'est un peu ça. Bon, et dreadlocks, alors, dans la Bible toujours, il y a le vœu du nazir. Et le vœu du nazir, ben, Christ, Jésus-Christ, c'était un nazir. Le vœu du nazir, c'est que tu ne couperas pas tes cheveux tant que tu travailleras, que tu œuvreras, je préfère ce mot, que tu œuvreras à la gloire de Jah, donc de Dieu. Donc tu laisses pousser tes dreads et c'est aussi une façon de signifier que tu es, en fin de compte, dans un moment de glorification de la création, du créateur, de tout. Après, chacun y met un petit peu aussi sa liviti, encore une fois. Hein. Et ce fait de laisser pousser ses dreads, c'est aussi une façon de se rebeller face à Babylone. Parce que là, tu ne peux pas te cacher. Des dreads, tu ne peux pas les cacher. Ah. Parce qu'il y a eu des rastas qui ont dit on peut ne pas avoir de dread et être quand même un rasta. Oui, effectivement. Mais du coup, tu vas pouvoir te dissimuler. Alors, tu vas pouvoir faire des choses que nous, avec nos dreads, on ne pourra pas faire. Parce que nous, on est tout de suite repérés. Tu ne peux pas cacher des dreads. Les dreads, elles se voient. Et donc, c'est aussi une façon de militer, de garder ses dreads sur la tête. Donc, vraiment une façon de militer. Après, sur ce, quand tu vas en Afrique et que tu regardes un peu les anciennes nations, tu vas te rendre compte que souvent, les guerriers, les rois ou les guérisseurs, les oubliats, les sorciers, avaient des dreadlocks. Les druides aussi. Tu remontes comme ça un peu partout, les gnawa, tu remontes partout dans l'Antiquité, les dreadlocks, elles étaient là. Alors, il y en a même qui m'ont dit, pour se foutre un peu de moi, en disant, ouais, comme la méduse. Eh oui, si tu veux, pas de problème. Moi aussi, mais c'est fait gaffe. Ne me regarde pas trop de face. Ne sois pas pétrifié. Enfin bon. C'est aussi ça, dreadlocks. Tu vois, c'est que ça pétrifie, t'as peur. Parce que moi, j'ai déjà vu l'effet que ça fait. Et je l'ai même moi-même ressenti. C'est que la première fois que tu te retrouves face à un grand rasta avec des gros bongos, je veux dire, la première fois, c'est quand même. C'est très impressionnant, ça fait comme une crinière de lion, comme le lion de Juda, donc un des noms de Rastafari, l'empereur d'Éthiopie. Tu vois, tout est très lié. Et les Okonkwo, les prêtres Ashanti, avaient des dreadlocks. Et puis après, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, eh bien sont venus des Indiens, mais là, des Indiens d'Inde, hein. Voilà. Les Sadhus sont arrivés avec le régime végétalien, la ganja, la sativa et l'indica, qui n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes qualités, les mêmes effets.
Tu dirais, pour faire le lien entre ces deux endroits, on pourrait dire de toi, est-ce que tu dirais qu'un conteur, c'est quelqu'un qui est militant aussi ?
Une oula, conteuse, c'est... Oula, c'est... moi je suis militante, mais j'oblige pas les autres conteurs à l'être. Voilà, les autres conteuses à l'être. Non, mais c'est vrai, arrête de rigoler. Elle rigole, vous la voyez pas, mais elle rigole. Non, c'est vrai, moi, j'oblige personne à être ce qu'il a pas envie d'être. Il y a des conteuses qui ont envie de raconter des petites histoires pour les enfants parce que ça leur fait plaisir et que c'est joli et puis que c'est agréable et que c'est doux. Moi aussi, j'aime faire ça, mais avec des contes militants quand même derrière. J'aime bien qu'il y ait toujours quelque chose quand même qui éveille. Voilà, qui fasse que le gamin, après, ou l'adulte, il s'en aille en se posant des questions. Parce que je trouve que de se poser des questions et de se remettre en question, pour moi, c'est la vie. C'est vivant. C'est comme ça, pour moi, qu'on avance. Mais ça, c'est ma version. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, oui, je suis une conteuse militante.
Merci de ce grand tour en allant au Ghana, chez les Ashanti, et en Égypte, et chez la Méduse, et... On a fait un sacré voyage quand même.
Mais merci Angèle de ton invitation, et merci pour tout, et merci aussi pour la bête de scène. C'était vraiment une expérience très chouette de raconter dans ce petit cocon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la bête de scène. Voilà.
Merci.
On doit s'arrêter là, et je comprends bien, cher ami, que tu sois un peu frustrée, mais un peu de frustration ne nuit pas, n'est-ce pas ? On arrive donc à la fin de cette émission consacrée à Caroline Castelli. Salut à tous, à bientôt.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Gauduchot et présentée par Charles Cécile.